Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
On a cru pendant quelques décennies que Mars était parcouru de canaux. De longs traits rectilignes tracés à la surface d'un monde lointain, comme si une intelligence étrangère avait entrepris d'y organiser une circulation de l'eau, la survie d'une civilisation et peut-être même son dernier effort pour ne pas disparaître. Aujourd'hui, cette idée nous semble naïve. Et pourtant, elle a occupé les esprits les plus sérieux, les astronomes les plus rigoureux, et bien au-delà, elle a fasciné le grand public. Les journaux, les écrivains, toute une époque. Dès le XVIIe siècle, avec l'essor de l'héliocentrisme, une question nouvelle apparaît. Les autres planètes sont-elles habitées ? Bernard Lebovier de Fontenelle imagine des mondes peuplés. Christian Huygens suppose des êtres raisonnables ailleurs. L'univers cesse d'être vide. Mais Mars reste longtemps une énigme, un point rouge. Puis vient le 19e siècle. Le point devient un disque tremblant, instable, difficile à interpréter. Et c'est ici qu'apparaît une figure essentielle, Giovanni Schiaparelli. Schiaparelli est un savant discret, méthodique, formé à la tradition rigoureuse de l'astronomie italienne. Il travaille à l'observatoire de Brera à Milan. Ce n'est pas un rêveur au sens romantique, c'est un observateur patient. En 1877, il observe Mars lors d'une opposition exceptionnelle. Mars est au plus près de la Terre. Son instrument est une lunette de taille modeste. Mais ce qui compte, c'est sa méthode. Il observe longuement, il note, il dessine et il fait quelque chose de remarquable. Schiaparelli donne à Mars une géographie. Il baptise des régions, Syrtis Major, Mare Erythraeum. Sur ses cartes apparaissent de fines lignes, sombres, qui semblent relier entre elles des régions plus vastes. Il les appelle « canali ». En italien, cela signifie des chenaux, des sillons, peut-être des dépressions naturelles. Rien d'artificiel, rien qui évoque nécessairement une civilisation. Mais le mot va voyager et en français, canali devient canot. Et là, tout change. Un canal, ce n'est plus une formation naturelle. En 1879, il observe ce qu'il appelle la gémination. Des canaux qui semblent se dédoubler. Deux lignes parallèles. C'est un détail, mais un détail qui va enflammer les esprits. Car à partir de là, l'interprétation devient inévitable. L'idée s'impose, si Mars possède des canaux, alors quelqu'un les a creusés. Et le contexte s'y prête. La fin du 19e siècle est une époque d'enthousiasme scientifique. Les journaux se multiplient, la vulgarisation se développe, le public suit avec passion les découvertes. Les canaux de Mars deviennent un sujet médiatique. On en parle dans la presse, on en débat dans les salons, on en discute dans les conférences publiques, des gravures circulent, des cartes sont reproduites, Mars devient visible, non pas dans le ciel, mais dans les images. Mars devient compréhensible. Dans une époque marquée par les chemins de fer, les canaux, les réseaux, cette vision est presque naturelle. Puis vient Percival Lowell. Son rôle dépasse largement celui d'un simple observateur. Lowell est un personnage singulier, issu d'une grande famille de Boston, fortuné, cultivé, passionné par l'Orient et par les grandes civilisations. Il se tourne tardivement vers l'astronomie, avec une énergie presque obsessionnelle. En 1894, il fait construire un observatoire à Flagstaff, en Arizona, choisi pour la pureté de son ciel et la stabilité de son atmosphère. Cette Lowell Observatory devient rapidement un lieu emblématique de l'observation martienne. Lowell s'y équipe d'instruments performants pour l'époque, et surtout il y consacre un temps immense, observant nuit après nuit, dessinant, comparant, interprétant. Mais ce qui le distingue peut-être davantage encore, c'est son tempérament. Lowell ne doute pas. Là où d'autres hésitent, lui, il affirme. Là où certains voient des formes incertaines, lui, il voit un système. Et il donne des noms à ses canaux, il les ordonne, il leur donne une cohérence. Son observatoire devient ainsi non seulement un centre d'observation, mais presque un laboratoire d'interprétation, un lieu où Mars cesse d'être un objet lointain pour devenir un monde habité, pensé, organisé. Et là, tout change d'échelle. Lowell n'est pas seulement un savant, c'est un communicateur. Il écrit, il parle, il publie. Ses livres se vendent, ses conférences attirent. Et surtout, il raconte une histoire. Mars devient une planète mourante. Ses habitants luttent contre la sécheresse. Ils construisent des canaux. Le public adore. Car cette histoire est à la fois scientifique et dramatique. Une civilisation qui lutte contre son destin. En France, Camille Flammarion propose une vision différente, plus harmonieuse. Il écrit ceci. N'est-il pas logique d'admettre que, plus ancienne que nous, l'humanité de Mars soit aussi plus perfectionnée et que l'unité féconde des peuples, les travaux de la paix, aient pu atteindre des développements considérables. Nous ignorons ce que peuvent être ces longs tracés sombres à travers les continents, si toute leur épaisseur est homogène, et rien ne nous prouve assurément que ce soit là des canaux pleins d'eau. On peut faire là-dessus 1000 conjectures. On y peut voir des travaux de drainage des eaux devenues rares sur la planète. On y peut imaginer, de préférence, une sorte de cadastre de culture collective sur un globe arrivé à la période d'harmonie. Mars devient un monde organisé. La science bascule dans la littérature. Publié en 1898, La guerre des mondes de Wells est l'un des premiers grands récits d'invasion extraterrestre et sans doute le plus marquant. Le roman adopte le point de vue d'un narrateur ordinaire, témoin de l'irruption brutale d'êtres venus de Mars dans la campagne anglaise, près de Londres. Tout commence par des phénomènes astronomiques observés à distance, des éclats lumineux à la surface de Mars, puis la chute mystérieuse de cylindres métalliques sur Terre. De ces cylindres émergent des créatures étranges, bientôt équipées de machines redoutables, les fameux tripodes, qui avancent inexorablement en détruisant tout sur leur passage. Les Martiens disposent d'armes terrifiantes, comme le rayon ardent, et l'humanité, pourtant sûre de sa puissance, se révèle impuissante face à cette force venue d'ailleurs. Mais ce qui donne au roman sa profondeur, c'est moins le spectacle de la destruction que le renversement de perspective qu'il impose. Wells imagine que les Martiens envahissent la Terre comme les Européens ont colonisé d'autres continents. Et surtout, il ouvre son récit par une phrase restée célèbre qui résume toute l'inquiétude du livre. Personne n'aurait cru, dans les dernières années du 19e siècle, que les choses humaines fussent observées. Mars y apparaît comme un monde ancien, desséché, contraignant ses habitants à chercher ailleurs les ressources nécessaires à leur survie. Une idée directement inspirée des théories sur les canaux de Mars. par-delà le gouffre de l'espace. Des esprits qui sont à nos yeux ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent. Des intellects vastes, calmes et impitoyables considéraient cette terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leur plan pour la conquête de notre monde. Mars devient inquiétante. Ce n'est plus seulement une planète habitée, c'est une planète qui nous observe. Et le public suit. L'histoire sort des observatoires, elle entre dans les journaux, les romans, les conversations. Mars devient un personnage. Mais déjà, les doutes apparaissent. Certains astronomes ne voient pas les canaux, ou bien ils les voient différemment, ou bien ils les voient disparaître, car les lignes ont une propriété étrange, elles ne sont pas stables. Elles apparaissent, s'estompent, se fragmentent. Elles dépendent des conditions d'observation, de la turbulence de l'air, de la fatigue de l'œil. Elles semblent exister, puis ne plus exister. On commence à comprendre que le problème n'est peut-être pas sur Mars, mais dans la manière dont nous regardons Mars. L'œil humain, lorsqu'il est confronté à des images floues, à la limite de la perception, a une tendance naturelle à organiser. Quelques tâches deviennent une ligne, plusieurs lignes forment un réseau. C'est un mécanisme profond, chercher de la structure, du sens, de la continuité. Voir, ce n'est pas simplement recevoir, c'est aussi interpréter. Au début du XXe siècle, les instruments s'améliorent, les observations deviennent plus précises et, paradoxalement, plus elles sont précises, et moins les canaux apparaissent, comme si la netteté dissipait l'illusion. Depuis le milieu du XXe siècle, Mars n'est plus seulement observée depuis la Terre, elle est observée de près. Les premières sondes, comme Mariner 4 en 1965, ont envoyé les premières images rapprochées, révélant un monde sans canaux. Et il n'y a rien, pas de canaux, seulement Mars. Puis sont venues les missions Viking dans les années 70, qui ont tenté de détecter des traces de vie. Depuis, l'exploration n'a cessé de s'intensifier. Des orbiteurs cartographient la planète avec une précision remarquable, tandis que des robots roulants parcourent sa surface. Des engins comme Curiosity ou Perseverance analysent les roches, cherchent des traces d'eau anciennes et collectent des indices sur un passé peut-être habitable. Mars est ainsi devenu un terrain d'exploration directe, presque familière, où l'on ne projette plus seulement des hypothèses, mais où l'on accumule patiemment des observations, comme si, après l'époque des illusions, commençait celle des preuves. Aujourd'hui, Mars n'a plus rien d'un monde parcouru de lignes mystérieuses. Les sondes et les rovers nous en ont donné une image d'une précision extraordinaire. C'est une planète rocheuse dont la surface porte les traces d'une histoire très ancienne. On y retrouve d'immenses volcans comme Olympus Mons, le plus grand du système solaire, des canyons gigantesques comme Valles Marineris et d'innombrables cratères d'impact. Mais on y voit aussi autre chose, des lits de rivières desséchées, des deltas fossiles, des minéraux qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. Tout indique qu'autrefois, il y a plusieurs milliards d'années, Mars a connu une période où l'eau coulait à sa surface, peut-être sous forme de rivières, de lacs, voire d'océans. Aujourd'hui, cette eau a presque entièrement disparu de la surface. Elle subsiste sous forme de glace au pôle, et dans les sous-sols. L'atmosphère très ténue ne protège pas la planète et le climat est devenu froid et sec. Mars apparaît ainsi non pas comme un monde artificiellement organisé, mais comme un monde transformé par le temps, passé d'un état peut-être plus hospitalier à celui d'un désert glacé. Et si l'on n'y trouve pas de canaux tracés par une civilisation, on trouve une autre histoire plus lente, plus profonde, celle d'une planète qui a eu, elle aussi, son passé d'eau, et peut-être même un jour, de vie. Finalement, cette histoire nous dit ceci, que la science ne progresse pas seulement en accumulant des vérités, elle progresse aussi en traversant des illusions. Certaines erreurs ferment des chemins, mais d'autres en ouvrent. Les canaux de Mars appartiennent à cette seconde catégorie. Ils n'ont jamais existé, et pourtant ils ont tracé une voie. Je suis sûr que vous avez reconnu le Requiem de Ligeti, la scène finale de 2001 Odyssée de l'espace.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.